Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïca 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaica.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui la pianiste et actrice Karine Lechner. Bonjour Karine.
Bonjour Fred.
Alors, je résume votre parcours. Vous êtes née à Buenos Aires, en Argentine. Vous passez la majeure partie de votre jeunesse à Caracas, où vous commencez vos études musicales auprès de votre mère, Lil Tiempo, une pédopédagogue de renommée mondiale. Vous faites votre première apparition publique à l'âge de 5 ans et vos débuts avec orchestre à 11 ans. Vous vous installez en Europe et poursuivez vos études de piano avec Maria Curcio et Pierre Sancan et recueillez également les conseils de Martha Argerich, Nelson Frère, Daniel Barenboim, Nikita Magaloff et Raphaël Orozco. Depuis lors, vous menez une carrière internationale en jouant en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et en Suisse, ainsi qu'aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, au Venezuela, au Mexique et au Japon. La liste est interminable. Vous vous produisez également avec des artistes comme Martha Argerich, Barbara Hendrix, Victoria Mulova, Michael Gutmann, Alexandre Debru et votre frère Sergio Tiempo, avec qui vous formez un duo permanent parmi les plus extraordinaires. Vous êtes également membre du trio Carlo Van Est. Je vous propose de débuter notre entretien avec l'Allegretto Grazioso du concerto pour piano numéro 2 en si bémol majeur de Johannes Brahms.
Thank you.
L'Allegretto Grazioso du concerto pour piano numéro 2 en si bémol majeur de Johannes Brahms. Karine Lechner était au piano entourée de l'Orchestre Symphonique de Berlin, placé sous la direction d'Eduardo Marturet. Dites-nous Karine, quel souvenir gardez-vous de votre découverte du piano ?
Le piano fait partie de notre famille depuis très longtemps. Ma mère étant une pédagogue vocationnelle merveilleuse. Donc, quand je suis née, même avant d'être née, j'écoutais déjà beaucoup de musique, mais surtout beaucoup de piano. Et il y a une très belle anecdote que j'aime beaucoup, c'est quand j'étais une petite fille, comme ça j'avais une copine et j'étais chez elle. Et ma copine me montrait sa maison. Et ici c'est la chambre, et c'est la chambre de mes parents, et ici la salle de bain, et la cuisine, et le living. Et puis elle finit de me montrer, et ma question c'était, et où est le piano ? Parce que pour moi, une maison sans piano, c'était très bizarre. Donc pour moi, le piano, ça fait partie de tout. C'est dans la maison.
Alors, si je comprends bien, vous parlez de votre mère, mais la tradition musicale remonte même aux générations avant.
C'est juste. Mes grands-parents maternels, donc Elisabeth Westerkamp et Antonio Derraco, étaient pianistes tous les deux, et qui jouaient beaucoup. Et ils étaient aussi profs et ils avaient aussi un duo. D'où l'idée, peut-être, qu'après, j'ai formé un duo avec mon frère Sergio.
Nous allons y revenir.
Oui. Et du côté paternel, mon père Jorge Lechner était pianiste, mais il travaillait au Théâtre Colón de Buenos Aires comme répétiteur et comme chef d'orchestre à l'opéra. Donc, j'écoutais l'opéra depuis que j'étais petite. J'avais cette influence-là qui était différente du côté maternel, puisque c'était autre chose avec le chant et avec la musique de chambre. Il faisait aussi beaucoup de musique de chambre. Donc, j'ai eu beaucoup de chance.
Et alors, justement, j'ai parlé en introduction de votre mère et de son rôle de pédagogue du piano. Alors, comment décririez-vous son enseignement ?
Il n'est pas descriptible. Je veux dire, c'est vocationnel vraiment chez elle. À 14 ans, elle a eu envie de donner cours. Elle a donné son premier cours, selon ce qu'elle m'a dit, à 14 ans. Et elle a développé sa propre méthode, qui n'est pas imitable. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai donné aussi cours pendant 10 ans. C'était une belle aventure, mais je ne pourrais jamais faire comme elle. Et ce qu'elle a, c'est qu'elle s'adapte à chaque enfant et qu'elle adore, même encore maintenant, elle découvre des choses encore maintenant.
Est-ce qu'elle est sévère ? C'est axé beaucoup sur la discipline ?
Ça dépend avec qui. Avec moi, elle était, oui, stricte. Mais elle sait qu'est-ce qu'elle peut demander de chacun. C'est ça qu'elle est un peu comme une magicienne. Et donc j'admire énormément. Et je pense que c'est vrai, on peut pas la cataloguer, elle est sévère ou pas sévère, parce que je pense que ça dépend de l'enfant qu'elle a
en face d'elle.
Oui, exactement.
Alors parmi vos influences musicales, on trouve Martha Argerich. Quels sont les conseils les plus marquants que vous retenez d'elle ?
Moi, je me rappelle de l'écouter répéter. Déjà ça, quand on était à Genève, chez elle. Même avant de venir vivre à Bruxelles, on devait attendre que la maison soit prête. Donc, on a passé un peu de temps chez elle. Mais elle venait aussi à Caracas quand j'étais petite. Et j'adorais l'écouter parce qu'on apprend beaucoup en écoutant aussi. Je trouvais ça passionnant. Je lui demandais toujours, puedo. Et parfois, elle disait oui,
est-ce
parfois non.
Est-ce que je peux.
Et donc, Martha, pour moi, c'est ça. C'est, l'écouter, c'est toujours à nouveau une découverte, un moment précieux, privilégié. Et quand elle m'a donné des cours, enfin, on ne peut pas appeler ça des cours, mais j'ai joué pour elle. Elle m'a donné des feedbacks super aussi. Mais oui, c'est surtout l'écouter, parce que j'ai eu des feedbacks de Rafael Orozco, de Nelson Freire, d'autres pianistes qui m'ont... Radulupu, je me rappelais l'autre jour, parce que je répétais le 4e Beethoven. J'avais joué pour lui le 4e Beethoven à la maison. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'on recueille différentes influences qui sont très enrichissantes.
Alors, je vous propose de poursuivre avec Fête, tirée des Nocturnes de Claude Debussy. Vous y jouez avec votre frère Sergio Tiempo. Thank you. Fête tirée des nocturnes de Claude Debussy, Karine Lechner, notre invitée, y joue avec son frère Sergio Tiempo, qui est un immense musicien. Karine, dites-nous, comment est née l'idée de débuter un duo avec votre frère ?
Voilà, alors là, je vais te dire quelque chose qui m'a surpris. J'écoute ton émission depuis que ça a commencé. Et j'ai écouté Lily, qui est une grande amie à moi. J'ai écouté Sergio, qui est mon frère. Et j'étais surprise d'écouter la réponse à ta question qui était la même.
Oui, je lui ai posé la même parce que je trouve très, très intéressant.
Oui, il faut toujours faire
et,
comme
et
ça.
Et c'est intéressant d'avoir les deux aspects, les deux versants
de l'histoire. J'ai appris tellement de choses de tout ce qu'il a dit dans cette émission que j'étais ravie parce qu'en plus, il m'a fait des éloges et il a dit plein de choses qu'il ne m'a jamais dit en face, mais parce qu'il pense peut-être que je l'ai laissé comme ça. Mais ça m'a fait beaucoup plaisir. Et une des choses, c'est qu'il a répondu que oui, c'était moi qui avais eu l'idée de commencer Quatre mains avec lui. Eh bien, je corrige que dans ma mémoire, c'est pas moi, c'est ma mère, c'est notre mère qui un jour nous a dit, allez, jouer un peu de quatre mains, et de quatre mains, on est passé à deux pianos, et le duo a grandi, continue à grandir d'ailleurs. Mais bon, c'était très sympa que pour lui, dans sa mémoire, puisqu'il il a 7 ans de moins que moi, donc il a ce souvenir. Et c'est toujours, tellement épanouissant de jouer avec Sergio et on apprend l'un de l'autre. Tout ce qu'il a dit, je corrobore que c'est tout à fait juste. On s'amuse énormément en jouant. L'autre jour, on se rappelait de tout ce qu'on a fait à Lugano parce que j'étais voir les enregistrements qui sont en ligne, je devais chercher. Et c'est vrai, on oublie, mais pendant 15 ans, on était au Lugano Marta Argerich Festival et on nous commandait des morceaux avec orchestre, Lopatnikov, Martinou, qu'on n'aurait jamais appris autrement et qui nous ont donné ce répertoire, qu'on a un très grand répertoire. Et on allait jouer l'année passée Tango Rhapsody avec Gustavo Dudamel à Los Angeles Hollywood Bowl. Donc j'espère que ça se fera un jour. Mais
ça a été annulé à cause du Covid.
Oui, bien sûr. Mais on espère que ça aura lieu.
Alors, vous êtes également actrice et c'est même une part intense de votre activité. Durant votre enfance, vous avez même assuré un premier rôle dans la série vénézuélienne Sopotocientos, l'équivalent de L'île aux enfants pour la francophonie. Comment avez-vous découvert ce talent d'actrice ?
Non, bon, c'est venu un peu par hasard. J'avais 7 ans et ma mère avait une amie actrice qui lui parlait un jour d'une émission, enfin, comment on appelle ça
De divertissement pour les enfants.
Oui, c'est ça, comme Sesame Street, un peu ce type éducationnel comme ça pour les enfants. Et c'était une famille avec des animaux, enfin, il y avait un hippopotame, il y avait un crocodile, il y avait un
porc-épic,
oui.
Un hérisson.
Oui, et donc c'était très, très amusant. Et ils cherchaient une fille parce que c'était une famille, père, mère, garçon-fille. Et moi, je jouais pendant qu'elle parlait. Oui, on cherche une fille. Et j'ai dit, est-ce que ça peut être moi la fille ? Mais le problème, c'était que moi, je n'avais pas encore l'accent vénézuélien parce que je venais d'arriver d'Argentine où je suis née. Et donc, ils ont dit, bon, mais tu sais, il faut une vénézuélienne. J'ai dit non, mais moi j'ai envie de faire. Il y avait 300 filles qui se sont présentées. Je la fais un peu courte, mais je me suis préparée. Enfin, j'ai écouté beaucoup comment on parle l'accent vénézuélien. Et il paraît que le jour de ça, je ne me rappelle pas, mais ma mère me dit que le jour de l'audition, j'avais beaucoup de fièvre. Et ma mère m'a dit, écoute, tu ne pourras pas aller. J'ai dit, oui, tu vas me donner une aspirine et je vais y aller. Et j'ai été choisie comme Tinita.
Et pendant combien de temps vous avez tenu ce rôle ?
Alors ça a commencé, j'avais 7 ans, ça a duré un an, il y a eu 150 chapitres, ça passait deux fois par jour. À l'époque, il n'y avait pas encore couleur, c'était blanc et noir.
Et beaucoup moins de chaînes, j'imagine.
Et beaucoup moins de chaînes, il n'y avait que 4 chaînes, mais ça avait un succès. Je ne pouvais pas sortir dans la rue, Tinita, Tinita, je ne pouvais pas aller au cinéma. Ça, c'était la partie que j'aimais le moins parce que je n'avais pas vraiment de liberté. On me reconnaissait trop, quoi. Et après de ça, il y a eu d'autres émissions, d'autres choses. Il y a eu un peu plus dramatique, Corazón d'Edmundo D'Amicis, donc une adaptation, et puis des pièces de théâtre adaptées à la télévision. Et donc, de 7 à 9 ans, je jouais au piano. Enfin, j'étais pianiste et comédienne et j'allais à l'école et je faisais la danse classique. Je ne sais pas comment je trouvais le temps pour faire tout ça. En plus, je jouais avec mes copines. C'était les années les plus belles, je pense, dans ce sens-là, où j'avais le temps illimité pour tout faire, tout ce que j'aimais. Mais à 9 ans, j'ai dû prendre une décision parce que j'avais trop de propositions pour continuer à faire la télévision et ça prenait beaucoup de temps et donc la musique aurait souffert. Et c'était un choix très difficile, mais j'ai choisi la musique parce que la musique, si on arrête, c'est très difficile de la reprendre après. Tandis que pour jouer, d'ailleurs, je voulais te dire que cette semaine, je suis en rodage comme comédienne pour Kunsten Arts Films, Kunsten Arts Film Festival. J'ai été choisie pour un rôle, mais je ne vais pas trop dévoiler. C'est juste, c'est un court métrage qui fait partie d'un moyen métrage. Et donc, je suis en tournage ce week-end et la semaine prochaine. Et c'est très épanouissant. J'adore ça. Mais entre-temps, je continue à me nourrir, d'apprendre. J'ai pris des cours de théâtre avec Benoît Blampin, que j'adore. Et depuis le Covid, via Zoom avec l'Argentine, en espagnol aussi. Et atelier cinéma, j'ai fait. Bon, donc. C'est vrai que je pense que j'ai fait le bon choix, mais on ne pourra jamais savoir. Mais je pense que...
Vous n'avez pas fait de choix, en fait. Vous menez les deux, ce qui est assez rare, de mener à la fois une activité de musicienne et d'un autre côté, une activité d'actrice. Est-ce que c'est des activités qui sont...
Compatibles ? Tout à fait. Oui, parce que c'est la même chose. C'est ça qui me passionne quand je joue comme comédienne, c'est que je retrouve tellement de choses comme dans la musique. La façon de travailler, la façon d'exprimer les choses, l'analyse qu'on doit faire, comment on sent les choses. C'est vraiment la même chose, oui, presque la même chose.
Alors, votre fille Natacha est également une pianiste accomplie et j'ai cru comprendre que grâce à elle, vous avez effectué vos premières expériences comme chef d'orchestre. Comment cela s'est passé ?
C'est ça. Ça s'est passé parce qu'elle était invitée à 9 ans ou 10 ans, je ne me rappelle pas, je crois qu'elle a 9 ans, à jouer le premier Beethoven comme la plus jeune soliste avec la Philharmonica de Buenos Aires au Teatro Colón. Et donc, c'était une grande responsabilité. Elle adorait l'idée et tout ça, mais j'ai dit oui, mais avant d'aller au Teatro Colón, il faudrait que tu puisses le jouer avant, quelque part. Et à l'époque, j'avais un ami chef d'orchestre qui avait un orchestre à Londres et qui faisait, pour répéter les chefs d'orchestre, ils ont besoin d'orchestre. Donc,
forcément.
Et, voilà, forcément. Donc, je me suis dit, bon, alors, peut-être je pourrais la diriger au premier Beethoven. Et je me suis entraînée avec Gabriel Laufer, qui reste un grand ami et qui était un excellent professeur. Et c'est comme ça que je me suis lancée. C'était une aventure très excitante et qui s'est très bien passée. Et suite à ça, je l'ai encore dirigée en Mozart, ici à Bruxelles, au Do majeur 467. Et le plus challenging, c'était au Venezuela, avec l'orchestre des jeunes au Venezuela, qui était... super orchestre, où le programme était concerto de Ravel en sol, le premier concerto de Liszt et Nuages et Fêtes, tu as choisi Fêtes, de Debussy. Donc là, je me suis beaucoup préparée. J'étais à Berlin, écouter Daniel Barenboim, regarder Daniel, parce qu'on apprend beaucoup en regardant aussi. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Bon, peut-être un jour, je pourrais retourner à cette aventure. Mais c'est une sensation énorme. Mais quand on est musicien, peut-être on peut faire différentes choses. Enfin, je ne veux pas prendre le violon maintenant, mais c'est comment on sent la musique, comment on entend la musique à l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut obtenir de la musique.
Pas tous les musiciens se sentent capables de diriger. Il y a beaucoup qui ne l'envisagent pas, d'autres...
Mais moi, je ne me sentais pas capable. C'est mon frère Sergio. Et c'est pour ça qu'on est si proches aussi, c'est parce que... On donne confiance à l'autre, on s'injecte la confiance l'un à l'autre. Et je dis, mais Debussy, je ne pourrais pas. Il m'a dit, oui, tu pourras, oui, tu pourras, regarde. Et puis voilà, c'est comme ça, il m'a encouragée. Et bon, c'est vrai que j'ai pu.
Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à le convaincre de faire la même chose, de tenter
la direction d'orchestre ? Oui, bien sûr, il doit absolument qu'il doit diriger un jour. Ça, c'est, je suis convaincue, il serait excellent aussi.
Alors, je vous propose justement de vous écouter, vous et votre frère, donc Sergio Tiempo, dans la Tango Rhapsody du compositeur Federico Russit. Donc Sergio Tiempo et vous-même êtes accompagnés de l'orchestre de la radio suisse-italienne placé sous la direction de Jacek Kapcsik. finale de Tango Rhapsody, Sergio Tiempo et Karine Lechner, notre invitée, étaient accompagnés de l'orchestre de la radio suisse italienne placé sous la direction de Jacek Kapczyk. Alors, Tango Rhapsody marie simultanément une action scénique et une pièce musicale. C'est un mariage assez unique. Est-ce facile pour vous de faire les deux en même temps?
Oui, alors ça c'était, comme toujours je veux jouer comme comédienne, c'était idéal parce que je pouvais combiner les deux, et Sergio aussi, qui est excellent comédien aussi, by the way. Et Federico, donc c'était une commande, c'était Sergio qui est très ami de Federico Russi.
Le compositeur. Qui est très actif dans le domaine de la musique de film, pour
exactement,
ceux qui ne le connaîtraient pas.
Exactement. On a demandé un morceau où il y aurait une petite histoire aussi, sans mots évidemment, mais de mouvement.
Une action scénique.
Une action scénique, exactement. Et donc, après, on a rejoué Tango Rhapsody en Australie, à Brisbane, et on a rajouté des choses, mais en demandant l'avis de Federico, évidemment. Mais c'est tellement rigolo, c'est vraiment, on s'amuse énormément.
Alors, c'est une œuvre que vous avez créée au festival Progetto Marta Argerich. Comment s'est passée votre collaboration avec le compositeur Federico Russi? Est-ce que vous avez pu faire des suggestions sur la partition,
oui,
sur la partie
sûr,
de piano?
Oui, bien sûr, parce
comment
qu'il
ça
est très ouvert.
C'est un échange?
Oui, tout à fait un échange, tout à fait, oui.
Alors, je vous propose de poursuivre cette fois-ci avec l'Andante con moto tranquillo du premier trio en ré mineur opus 49 de Félix Mendelssohn. Karine Lechner est au piano, Maya Lévy au violon, Alexandre Debru au violoncelle.
Thank you.
L'Andante con moto tranquillo du premier trio en ré mineur opus 49 de Félix Mendelssohn. Karine Lechner était au piano, Maya Lévy était au violon, Alexandre Debru au violoncelle. Ils forment ensemble le trio Carlo Van Est. Alors vous avez rejoint il y a quelques années ce trio, le trio Carlo Van Est, que nous venons d'écouter. Comment a débuté cette aventure?
C'est Alexandre qui est un ami depuis longtemps. Qui m'a demandé si j'aimerais jouer avec lui. En fait, lui, il a ce trio depuis des années. D'ailleurs, j'ai écouté l'émission aussi où il parlait. J'ai rejoint et je le remercie énormément parce que, à nouveau, je m'amuse énormément. J'ai appris plein de répertoires qui est tellement beau. Et on a eu des violonistes différents, mais lui et moi, ça fait longtemps qu'on y est. D'ailleurs, maintenant, on a un duo et on a sorti ce CD Pegasus.
On va en parler tout de suite.
J'aime beaucoup cet échange de trio.
En général, quelle place occupe la musique de chambre dans votre activité de musicienne?
Elle occupe la place avec les autres. C'est avec le duo, avec mon frère. Ça m'arrive de faire d'autres... Bon, maintenant, avec Alexandre... j'aime beaucoup faire des quatuors, des quintettes quand c'est possible. J'aime beaucoup. Enfin, on a fait 4 pianos aussi avec ma fille et ma mère. C'est ça qui est merveilleux en musique. On n'a pas le temps de s'ennuyer du tout.
Vous aimez l'échange?
J'aime beaucoup l'échange. J'aime beaucoup. Récital, c'est quelque chose d'autre. J'en ai fait des récitals. J'en fais de temps en temps. Mais là, on est très seul. Donc,
Vous aimez moins?
Non. Quand je le fais, j'aime. Mais la préparation est tellement beaucoup plus exigeante et beaucoup plus d'heures au piano que... Oui, voilà. Mais une fois que je suis...
Pourquoi? Parce qu'on est confronté uniquement à soi-même?
Oui, c'est ça. On est confronté à soi-même. C'est moi qui prends la décision de tout. Bon, je peux jouer pour les autres à qui j'ai fait confiance. Mais quand même, c'est assumer ça. Mais une fois que... Quand je l'ai fait, les derniers récitals que j'ai fait, j'avais un bonheur. Parce que l'avantage, c'est qu'on est seul, on fait ce qu'on veut. On ne doit pas négocier. On est libre, on est plus libre en faisant des récitals.
Mais on doute davantage.
Oui, c'est ça. C'est plus laborieux.
C'est ça.
Et l'échange, moi j'adore l'échange. Et c'est pour ça que je reviens quand j'étais comédienne. Qu'est-ce qui me plaisait tellement? C'était d'être en troupe. On est ensemble avec d'autres. C'est ça que j'adore.
Alors justement, vous venez nous présenter un nouvel album, Pegasus, que vous avez enregistré avec le violoncelliste belge Alexandre Debru. Qu'aimez-vous chez Alexandre, chez cet artiste?
J'aime beaucoup la passion qu'il a et comment il... l'intensité, parce que je me sens aussi très intense. Enfin, on dit de moi aussi, Karine est tellement intense, pas seulement
c'est
comme
vrai,
musicienne,
vous connaissez,
mais aussi
vrai.
Comme personne.
Oui, tout à fait.
Et donc, j'aime bien quand il y a quelqu'un d'autre qui est aussi comme ça, parce que c'est beaucoup plus facile la communication. Donc oui, j'aime ça.
Alors, je vous propose de vous écouter dans l'introduction et Polonaise brillante, opus 3, de Frédéric Chopin.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Alors Karine, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité le choix de partager avec nos auditeurs un morceau. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre?
Alors depuis que j'ai écouté la première émission d'Appassionato, je me suis demandé qu'est-ce que moi je choisirais, parce que c'est tellement difficile, j'aime tellement des musiques différentes. Ce matin encore, j'écoutais Purcell, Remember Me, je dis oh j'aurais pu choisir ça. Mais ok, j'avais fait un choix de trois morceaux, dont le deuxième mouvement de Mozart, parce que bon, j'adore ça, le septième symphonie de Beethoven, le mouvement lent. Et après, je me suis rappelé qu'il y avait un morceau qui me touchait particulièrement quand j'étais adolescente, que j'écoutais dans le train et mes larmes coulaient tout le temps, c'est « Du bist die Ruhe » de Schubert. Et je crois que c'était Elisabeth Schwarzkopf. Mais je ne suis pas certaine à 100% parce qu'après, j'ai écouté d'autres versions. Et je ne l'ai plus réécoutée depuis parce que c'était une émotion tellement forte que voilà, peut-être j'ai un petit blocage pour le réécouter. Donc peut-être c'est l'occasion maintenant.
Alors on va le réécouter maintenant. Je dois dire que j'ai mis pas mal de temps à le trouver. Ce n'était pas quelque chose qui était facilement disponible. D'accord. Donc je ne suis pas certain que c'était elle parce qu'elle a fait enregistrer une version qui n'a été publiée qu'il y a quelques années, alors qui était restée dans les archives, et deux lives, un à Salzbourg avec Furt Wangler et un autre avec une pianiste française d'un récital
c'est
live.
C'est peut-être pas elle que j'ai
écouté. Mais c'est pas grave, c'est très très beau. Et donc j'ai choisi de vous y faire écouter la version qui vient d'être republiée, qui est tombée dans les archives, où elle est accompagnée par Gerald Moore.